Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Aujourd'hui encore, des mots de tous les jours, des mots MOTS et des mots MAUX. Sur le divan de notre studio, je retrouve pour la deuxième fois Hélène Souhaud. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, lors de notre première séance, c'était le 5 décembre, toujours en podcast bien sûr sur le site d'IDFM, on t'avait reçu en tant que biographe, membre de l'association des Nègres pour Inconnus, un petit jeu de mots sur ce titre, et tu nous avais parlé de ton travail, de ta passion pour l'écriture et pour la mise en forme des mots, M-O-T-S, de ceux et celles qui viennent te confier leur récit de leur vie, mémoire familiale ou histoire personnelle, jusqu'alors souvent silencieusement gardés au fond de leur cœur.
C'est bien ça.
Aujourd'hui, c'est plutôt avec ton autre activité, on va dire, celle de psychanalyste, psychothérapeute. Alors pourquoi as-tu choisi de devenir psychanalyste ?
Et psychothérapeute. J'ai fait une thérapie il y a très 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 longtemps, quand j'ai commencé dans l'enseignement. C'était le déclencheur, c'était le poil à gratter qui m'a fait dire « Oh là là, j'ai des choses à régler, à remettre en place ». Même auparavant, quand j'étais adolescente, lycéenne, étudiante, j'avais déjà en tête qu'il faudrait un jour... Ma mère a beaucoup fréquenté les psys, j'étais déjà dans un milieu où on savait qu'on n'avait pas besoin d'être fou allié pour aller voir un psy. Ça faisait partie de mon univers. J'ai fini par trouver la psy qui me convenait, avec qui j'ai fait une année très très dense, donc je devais avoir entre 25 et 30, 27 ans par là. Alors il se trouve qu'elle était anciennement prof de français, devenue psychanalyste.
Tiens donc.
Tiens donc. J'ai eu l'impression de retourner toute ma vie comme une chaussette, que tout se remettait en place, de tout comprendre. Par la suite, j'ai continué de faire des tranches de thérapie. Je suis retournée la voir, elle, de temps en temps, en me disant finalement, on se connaît trop bien, j'ai besoin d'un nouveau regard, j'ai besoin d'une nouvelle approche. Et puis, donc je continuais ma carrière d'enseignante en me demandant si c'était vraiment fait pour moi, mais ça a duré quand même 26 ans, toutes ces questions sur l'enseignement. Donc j'ai expérimenté d'autres approches que la psychanalyse. D'ailleurs, à l'époque où je la voyais, elle, j'avais pas tellement la conscience de faire une psychanalyse parce que j'étais pas allongée. On parlait, c'était très dialogué, c'était pas l'image d'Épinal qu'on voit dans les films du psy qui fait et rien d'autre. J'avais un vrai retour avec elle. Et puis, j'ai goûté un petit peu à la thérapie de groupe. Je suis allée voir un psy qui faisait que... pour voir la différence, et je me suis dit, ah, finalement, il y a psychanalyse et psychanalyse. Voilà, j'ai donc du côté de Lacan, du côté de l'analyse transactionnelle. Je suis allée voir un psy en gratuit, enfin gratuit, qui ne me coûtait rien à moi en institution. Je me disais finalement, si on retire l'argent de l'équation, comment ça marche, qu'est-ce qui reste, j'ai essayé ça aussi. Mon but, c'était un petit peu de me dire, alors c'était au départ assez inconscient, quel psy j'aimerais être si j'étais psy, et c'est devenu de plus en plus conscient, et j'ai fini par faire de l'espionnage industriel, c'est-à-dire que j'allais voir les psys en notamment la toute dernière l'analyse transactionnelle en groupe. Là, j'étais consciente, d'ailleurs, je l'ai dit dans le groupe, j'ai dit, voilà, j'envisage de devenir psy moi-même et je viens voir comment ça marche. Parce que quand on travaille en groupe, il y a un thérapeute, 5 ou 6 personnes, et on voit le psy interagir avec les autres que soi-même. On assiste en direct à des thérapies. Ça, j'avais trouvé ça vraiment passionnant. Et l'année suivante, effectivement, je me suis lancée dans ma propre formation. Alors là aussi, j'ai frappé un peu à toutes les portes. J'ai fait des plans financiers, parce que c'est très très cher là. Et en plus, il fallait que ça colle du point de vue horaire avec mes horaires de prof, parce que j'étais encore en enseignement. Et entre le moment où on se forme pour être psy et le moment où on en gagne un revenu, il y a quand même plusieurs années qui se passent. Donc, je suis retournée voir la première, celle qui a retourné ma vie, celle avec qui j'ai toujours gardé un lien, qui est devenue amicale au fil des années. Et je lui ai dit, ben voilà, je la vous voyais à l'époque, si vous l'avez fait, je peux le faire aussi. C'est quoi votre école? Comment on fait? Comment je peux mettre mes pas dans les vôtres? Elle était affiliée à une école privée de psychanalyse qui se passe en deux volants. Il y a une grosse partie de la formation qui se fait en tête-à-tête avec un psychanalyste agréé qui a passé des examens pour avoir le droit de former, et un psychanalyste novice. Et puis, donc c'est du tête-à-tête dans un cabinet, hein, qui sont des séances qui portent du coup un autre nom. On est en psychanalyse didactique. On continue son travail sur soi tout en soulignant les ficelles et tout en regardant ce qui est en train de se passer et en regardant la théorie en action. C'était de l'ordre d'une ou deux fois par mois, rassemblement de toutes ces personnes qui sont formées à droite et à gauche à Paris ou en région parisienne, vers l'école le samedi pour des séminaires sur l'histoire de la psychanalyse, sur les différents courants, sur la psychopathologie, sur la psychogénéalogie. Et puis on rencontre les petits copains et ça c'est très sympa de ne pas être tout seul et d'avoir l'impression de faire partie d'une cohorte de thérapeutes formés en même temps. Il y a beaucoup de théories dans le discours transmis par l'école. Entre nous, c'est combien tu prends, est-ce que tu as une assurance, est-ce que tu as trouvé un loyer correct. On s'échange des tuyaux très concrets pour commencer, pour se lancer. J'ai donc, au bout de quelques années de formation, ouvert mon cabinet avec beaucoup d'appréhension, enfin beaucoup d'envie et d'appréhension à la fois. C'est-à-dire qu'en tant que professeur, nos élèves sont captifs. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors que là, tout à coup, il s'agit de conquérir une clientèle. C'est se faire connaître, faire de la publicité. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et j'ai adoré aussi ce passage-là. J'ai tout simplement pris mon bâton de pèlerin pour aller voir autant de médecins que possible. Énormément, énormément de médecins. Alors certains ont bien voulu me recevoir, d'autres pas. Et j'ai aussi redécouvert cette profession de médecin généraliste sous un autre jour. J'ai vu des gens très humains. Ceux qui reçoivent un psy débutant, c'est quand même des gens qui ont une curiosité, une ouverture d'esprit que tous n'ont pas. J'ai vu des gens qui se retrouvent parfois avec des cas de patients qui reviennent éternellement avec une plainte qu'ils ne peuvent pas soulager et qui prennent conscience que c'est ailleurs que ça se passe et qu'il y a un partenariat avec un thérapeute est très utile. Et bah, ça s'est fait aussi incroyable que ça. Un patient, puis deux, puis trois. Donc pendant 10 ans, j'ai été mi-prof, mi-psy avec des petites variations, des petits ajustements, un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre, sachant que je peux choisir, définir en début d'année combien j'aurai d'heures de cours, alors que les patients, bah, c'est toujours la surprise. Est-ce qu'ils viendront, est-ce qu'ils ne viendront pas? On garde la porte ouverte et on espère et on croise les doigts. Et dans l'ensemble, quand je regarde ma progression sur 10 ans, bah, y a une pente légèrement ascendante, toujours. Le bouche à oreille fonctionne. Patients qui ont été envoyés par un médecin reviennent en leur disant « Ah, la psy que vous m'avez trouvée, elle est comme ci, elle est comme ça. » Voilà, tout ça finit par s'installer.
Et donc tu reçois tes clients, tes patients plutôt, dans ton domicile à Saint-Leu.
J'ai organisé un local professionnel dans mon domicile, ce qui règle la question que je posais tout à l'heure. Combien coûte la location? Combien coûte le loyer? Voilà, ça, ça me permet d'avoir une ligne de dépenses en moins dans mon budget.
Alors, est-ce que tes patients sont surtout des hommes, des femmes?
Alors, si j'en parlais il n'y a pas très longtemps, les statistiques françaises, peut-être même plus largement des pays occidentaux, disent à peu près 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes. Et ça se confirme à peu près dans ma clientèle. Ouais.
De tous âges?
Alors, moi, je n'ai pas une formation spécifique pour les enfants. Hein. Pour recevoir des petits-enfants, il faut vraiment avoir une formation et des outils adaptés. Moi, je reçois des jeunes à partir de 15 ans, en général, à partir de l'adolescence. Et de tous âges, oui, vraiment de tous âges. Alors, peut-être que c'est parce que ce qui me passe le plus près du cœur et qui correspond peut-être aussi à mon histoire, je m'intéresse beaucoup aux crises de milieu de vie, autour de la quarantaine, quand on se retourne vers « bon, bah voilà ce que j'ai accompli ». Je regarde devant, aujourd'hui avec l'âge de la retraite qui recule, encore tout ça à faire une deuxième fois. Est-ce que j'ai envie de le faire de la même façon, dans les mêmes conditions, avec le même compagne ou compagnon, enfin, et toutes ces questions qu'on peut se poser. C'est une thématique parmi plein d'autres, mais les gens consultent en crise. Donc, crise conjugale, crise au travail, burn-out, deuil, enfin, on consulte parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Ça prend du temps et de l'argent. C'est difficile de passer la porte d'un psy. Donc, quand on consulte, c'est qu'on va mal. Hein.
J'ai pas l'envie d'aller voir un psy. Oui, c'est vrai, j'ai des problèmes, mais je n'en parle à personne. Il voudrais que j'y aille même si j'ai grandi là où les petits courent après les belles sommes. Pourquoi autant de gens me questionnent? Et dis-moi pourquoi devant le bien j'ai l'air indécis. J'ai pas besoin de tous vos conseils, bande de fils de pute, j'irai pas voir un psy. Ne me parle pas d'apaiser mes peines ou mes fautes, raconter ces problèmes aux autres, je crois que c'est la pire des bêtises. Ne me parle pas d'un maladie mentale ou autre, si ça va pas, j'écris des textes ou je fais des louanges à l'église. Je parlerai pas de mes réflexions, de mes déceptions, et que dans les films où ça finit bien, et s'il y a pas de remède, faut pas que je cède, c'est comme ça que je procède. Il n'y a que les faits qui demandent de l'aide. Et moi j'ai pas besoin d'aide. Enfin, je crois, c'est bizarre, j'ai comme au fond, moi, des milliers de peines que je raconte. Et moi j'ai pas besoin d'aide. Enfin, je crois. J'ai pas l'envie d'aller voir un psy, oui c'est vrai j'ai des problèmes mais je n'en parle à personne. Il voudrait que j'y aille même si j'ai grandi là où les petits courent après les belles sommes. Pourquoi autant de gens me questionnent? Et dis-moi pourquoi devant le bien j'ai l'air indécis. J'ai pas besoin de tous vos conseils, non non. Dans ma vie, j'irai pas voir un psy. Dans ma vie, j'irai pas voir un psy. J'ai pas besoin de tous vos conseils. Vous voudrez, j'irai voir un psy. Non, non, dans ma vie, j'irai pas voir un psy. Quand ça va pas, je pense à mes problèmes. J'appelle un pote, on parlera tout, sauf de nos problèmes. J'ai besoin d'aide, oh Seigneur aide-nous. Seigneur aide-nous, ici-bas je crois que j'ai pas les codes. La vie est belle que chez Lancôme. Dans nos quartiers, on nous dit que c'est un truc de blanc. Et pourtant, je crois que j'ai les symptômes. Les symptômes de quoi? Les symptômes de quoi? La santé mentale, ça n'existe même pas. Alors embrasse ta femme comme chaque soir. Fais semblant de croire qu'elle te remplacera pas. Fais semblant de croire qu'elle te remplacera pas. Fais semblant de croire qu'elle est prête à tout pour mettre bien les tiens. Quant à moi, je fais semblant d'aller mieux et que parler de façon j'en ai pas besoin.
Tu penses que je devrais aller voir un psy?
J'ai pas l'envie d'aller voir un psy. Oui c'est vrai j'ai des problèmes mais je n'en parle à personne. Il voudrait que j'y aille même si j'ai grandi là où les petits courent après les belles sommes. Pourquoi autant de gens me questionnent? Ils savent tous que ça tourne par rond dans mon esprit. En vrai ils ont peut-être raison. Faudrait que je prenne rendez-vous chez le psy. Ils ont peut-être raison. Ils savent tous que ça tourne par rond dans mon esprit.
Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois pour la deuxième fois Hélène Souhau, ici aujourd'hui en tant que psychanalyste. Alors en ce moment, il y a un raz-de-marée MeToo là, depuis déjà quelques années et avec un slogan qui est repris de façon très très récurrente, c'est « on te croit ». Quand une victime parle, fait un témoignage, on lui dit « on te croit ». Est-ce que toi, tu partages ce point de vue ou est-ce que plutôt tu dirais « on t'écoute, je t'écoute »
Je trouve que la phrase est belle et je...
Laquelle ?
On te croit, ouais. On te croit. Je ne crois pas avoir eu l'occasion de la prononcer. Elle infuse en moi MeToo, touche du bois. Je n'ai pas connu personnellement l'abus, la violence. Enfin, et j'ai fait tout un travail sur moi-même en écoutant, en lisant, en regardant et en entendant ce déferlement de paroles qui devaient sortir, qui devaient être entendues, qui devaient passer. Dans une consultation psy, on traite avec l'abus, on traite avec les blessures d'enfance. Donc on te croit, on t'écoute, oui, on essaye de faire les deux.
Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens, y compris des féministes, hein, comme... Caroline Fourest, qui estime que peut-être MeToo va trop loin lorsqu'on dénonce, en général des hommes, sans débat contradictoire. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une victime dise « voilà ce qui m'est arrivé » pour qu'aussitôt on la croie et que la personne soit condamnée. Alors qu'on sait bien, puisqu'on est enseignants tous les deux aussi, on l'a été en tout cas, quand quelqu'un vient dire quelque chose, il faut écouter la partie opposée, celle qui est mise en cause. Et donc quand il y a cette mise en relation entre deux paroles opposées, parfois émerge la vérité. Est-ce que MeToo, ça n'empêche pas une certaine vérité quand même d'émerger? Est-ce qu'on condamne tout de suite sans écouter?
Alors, il y a eu le MeToo et il y a eu le balance ton porc. Le terme balance ton porc a été controversé dans le sens où il y avait un côté délation et opprobre public jeté sur quelqu'un sans... balance ton porc, d'ailleurs, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on parle de MeToo. Et puis, MeToo...
Dans chaque spécialité,
voilà, dans,
on va dire,
dans chaque domaine. Ouais. Le MeToo inceste qui a fait énormément de bruit. Et heureusement, c'est extrêmement important de pouvoir enfin lever le voile sur tout ça. Est-ce qu'on en fait trop? Je ne suis pas capable de répondre à ta question de façon tranchée, noir ou blanc. Je te répondrai en changeant un petit peu d'angle. On parle beaucoup de consentement. MeToo, le consentement, ça marche ensemble. Il me semble que le lit de l'abus, c'est le flou. Le consentement, c'est très complexe. On a l'impression qu'il suffit de dire que oui ou non, c'est simple. Mais en fait, il y a énormément de situations où c'est ni oui ni non. C'est pourquoi pas, si tu me le présentes sous un jour favorable, ça peut évoluer. Et puis, je vais peut-être me rétracter parce que je peux changer d'avis en cours de route. Et puis, consentir, c'est une chose. Mais le terme de consentement, il pose aussi problème parce que ça postule l'idée que l'homme est toujours partant, il propose et que la femme dit oui ou dit non. Or, la femme, elle peut proposer aussi. On est à égalité dans cette histoire à pouvoir aussi dire son désir du côté masculin et du côté féminin. Et il y a encore plein de choses à dire, à faire. Et en tout cas, dans le cadre feutré et secret d'une thérapie, travailler sur ces nuances, travailler sur ce demi-consentement, sur ce qu'on dit et ce qu'on pense et qui est parfois en décalage, là c'est vraiment intéressant. On n'est pas dans le manichéisme, on est dans des choses infiniment plus subtiles que ça. Voilà, c'est compliqué d'interagir, c'est compliqué les relations, c'est compliqué l'amour. Il y a plein de nuances à explorer.
Alors sur ton blog personnel, la femme et la psychanalyste que tu es, est également prise de vertige et de questionnement à propos de certaines productions témoins d'une époque révolue, on va dire les années 80.
Ma jeunesse.
qui nous reviennent en boomerang, en particulier en ce qui concerne les rapports affectifs, voire davantage, entre adultes et enfants. On en parle très vite après une première pause musicale. Ah, nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois pour la deuxième fois Hélène Souhaud. Ici, aujourd'hui, en tant que psychanalyste. Alors, on écoute le premier titre que j'ai choisi, cette fois. Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie. On écoute et puis après, on en reparle.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis, elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos.
Voilà, on retrouve Hélène Souhaud, psychanalyste. On vient d'entendre Jeanne Moreau, en 1962, interpréter Le tourbillon de la vie. Alors pourquoi ce film Jules et Jim figure-t-il sur ton blog personnel? Qu'est-ce que ça t'a inspiré?
Alors, comme on parlait de relations, on parlait de relations complexes, je voyais ce film comme un des monuments fondateurs du polyamour. Aimer, le droit d'aimer plus d'une personne à la fois. Jeanne Moreau, qui interprète Catherine dans le film, aime Jules et Jim en même temps ou alternativement. C'est complexe. Ce que j'explore dans cet article, c'est une histoire à trois étages. Puisqu'on a un film adapté d'un livre, adapté d'une réalité. Et qu'à chaque étage, c'est pas la même histoire. Les noms changent, les nuances changent et l'intention change aussi. Alors, la vraie histoire touche notre culture assez récente, puisque Stéphane Hessel, qui a fait un livre qui a eu un grand succès...
Indignez-vous.
Et l'enfant du couple...
Du vrai couple.
Du vrai couple qui a inspiré le livre Jules et Jim, dont a été tiré le film Jules et Jim. Et Stéphane Hessel, quand il parle de ses parents, couple de ses parents, c'est un gamin qui a souffert du divorce de ses parents, tout simplement, et de la mésentente familiale. C'est pas l'enfant qui a vécu dans une joyeuse tribu polyamoureuse, recomposée, pleine d'entente. Il a souffert de la mésentente de ses parents. Donc c'est une autre histoire que celle qui est racontée dans le film.
Et alors, dans le film de Truffaut, à la fin quand même, triple suicide
qui ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé dans la réalité.
Alors donc ils se suicident tous les trois, hein, la femme et ses deux amants, mais il laisse la petite fille et il la laisse toute seule. Voilà.
C'est pas dit, on voit pas la petite fille pleurer, mais effectivement, oui, une petite fille. Stéphane est un garçon se transformant en fille dans le film. Mmh. Oui, il y a tout ça. Alors c'est une fin romanesque, hein. Ils sont partis dans une voie de liberté difficile à défendre à leur époque, et Truffaut a pris le parti, comme souvent à l'époque, hein. On s'autorise à raconter des histoires d'adultère, d'amour multiple, mais on est puni à la fin, hein. C'est l'histoire des liaisons dangereuses où à la fin, tac, ça se termine mal pour les protagonistes.
Mais là c'est l'enfant qui reste toute seule finalement, qui est encore plus puni, si on peut dire, dans le film.
Alors moi, je l'évoque, oui, mais oui. Dans le film, elle est complètement oubliée, cette petite fille.
Voilà, c'est ça. Elle est oubliée. On est toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte. On va écouter le deuxième titre que j'ai choisi, encore plus sulfureux, Serge Gainsbourg, en duo avec sa fille Charlotte, 1984, c'est bien sûr Lemon Ancest. Alors une très très belle chanson, mais d'après une étude de Chopin quand même. C'est aussi ça qui donne la qualité musicale. On écoute.
Alors c'est vraiment très... Merci pour ce choix, parce que ça illustre parfaitement le sujet dont je parle dans mon blog. C'est pas un film de Gainsbourg, c'est un film de Jane. Alors c'est un film d'Agnès Varda avec Jane. Je crois qu'elles ont vraiment fait le scénario ensemble.
Kung Fu Master.
Moi j'ai exactement l'âge de Charlotte Gainsbourg. C'est ma jumelle. Et je dois dire que quand j'avais 13 ans, et qu'elle avait 13 ans, et qu'elle chantait Lemon Ancest avec son père, ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Et je ne comprenais pas qu'elle ait accepté un truc pareil. Il y a eu une rétrospective Agnès Varda où le film a été accessible, donc un film qui a eu une diffusion très confidentielle à sa sortie. Hein. Et donc, j'ai revu récemment, ça passait sur Arte, j'ai revu Kung Fu Master à mon âge, où j'ai l'âge de... J'ai même dépassé l'âge que, qu'avait Jane dans, dans le film. Et Charlotte est dans le film, elle a peut-être une dizaine d'années dans le film.
Alors, si, si on, on résume pour les auditeurs, donc c'est une quadragénaire, Mary Jane, qui est incarnée par
Jane Birkin,
oui, qui a 39 ans à peu près, et elle tombe amoureuse de Julien, 13 ans donc, un camarade de, sa, de classe de sa fille, Lucie. Alors, il y a des baisers, des étreintes. Bon, heureusement, à la fin, la famille va remettre un petit peu tout ça en ordre, mais quand même, c'est l'histoire... assez incroyable, d'une, d'une femme adulte qui tombe amoureuse d'un très jeune garçon. Et, mais ce qui est encore plus fou, c'est que le rôle principal est interprété par Jane, qui fait jouer ses propres enfants, et la réalisatrice fait jouer son propre fils. Alors c'est quand même assez incroyable. Donc c'est un sacré mélange, ce que tu disais tout à l'heure, du flou.
Voilà, on est dans le flou jusqu'au cou.
Franchement,
absolument.
C'est assez incroyable. Alors, très belle chanson, bien sûr, sublime, qui est d'ailleurs reprise sans arrêt. Hein. Est-ce qu'on pourrait tourner quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on pourrait enregistrer une telle chanson aujourd'hui et tourner un tel film ?
J'en sais rien. Ce qui, moi, ce que j'entends, c'est la réponse de femmes à des artistes hommes qui ne se sont pas privés de jouer... avec le thème de Lolita, avec des histoires d'hommes mûrs avec une jeune fille, ça, on en a plein le cinéma. Et là, pour la première fois, on a des femmes qui répondent à ça. Donc, dans les deux cas, on parle de pédophilie. Hein. Aujourd'hui, on a fixé, c'est assez récent, l'âge légal du consentement d'un jeune à 15 ans. On est en dessous.
Et dès qu'il y a plus de 2 ans d'écart, je crois, voilà, avec le jeune, là, là, ça tombe sous le coup du viol, enfin,
voilà,
etc.
Voilà, tout à fait. Donc là, on est par rapport à la loi d'aujourd'hui, on est complètement hors la loi. Et donc, il y a cette histoire qui met en scène une histoire qu'aujourd'hui, on nommerait de pédophilie. Et du fait des relations familiales entre les personnages du film et la réalisatrice... Effectivement, on baigne dans l'inceste aussi, oui.
Ou dans l'incestuel.
Dans l'incestuel, oui, oui, tout à fait.
Maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, tu dis, mon regret, c'est que je n'ai pas pu parler de cette situation avec les enfants qui ont tourné dans le film et qui sont maintenant adultes.
Ah, c'est sûr qu'avoir aujourd'hui la vie de Charlotte Gainsbourg et de Mathieu Demy sur ce film auquel ils ont participé, je pense que... Enfin, il y a un côté aussi... un film, c'est toujours un peu une colonie de vacances. On joue des scènes, on s'amuse. Qu'est-ce qu'ils ont compris à 14 ans et qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui à plus de 50? Je ne sais pas. Charlotte Gainsbourg a fait un long et important travail sur elle-même. Hein. Je pense qu'elle a labouré tout ça comme il se doit. Voilà, en retombant sur ce film, c'est vrai que le film est beau, hein, par ailleurs. Et moi, je défends des idées féministes. Et l'idée que des femmes prennent la parole, elles aussi aillent du côté de ce qui chatouille, de ce qui provoque, de ce qui choque, de ce qui est interdit, comme le faisaient les hommes de la même époque. Bon.
Alors bon... Si on, dans un autre domaine, on pourrait trouver très bien que les femmes se mettent à fumer, comme les hommes, mais du coup, elles ont eu plus de cancers aussi.
C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui.
Voilà. Hélène, notre deuxième rendez-vous se termine, c'est déjà fini, c'est affreux. Simplement, je voulais te demander quand même, est-ce qu'aujourd'hui, les psys ou alors les influenceurs et leurs promesses d'épanouissement personnel, est-ce que les psys, les influenceurs ont désormais remplacé les grands visionnaires qui voulaient guider le peuple vers la liberté, l'émancipation ? Est-ce qu'aujourd'hui, Freud et ses descendants ont relégué Hugo et Voltaire dans les poubelles de l'histoire ?
Ah, certainement pas dans les poubelles de l'histoire. Non, mais effectivement, le travail personnel à son bien-être et la lutte collective sont parfois mis dos à dos comme tu le fais. C'est dommage de les opposer, mais c'est vrai que les luttes collectives ont perdu du souffle, c'est clair. Hein. Je te parlais des burn-out. Moi, j'écoute le burn-out, j'écoute l'histoire du patient dans son ensemble, Et très souvent, la maltraitance qu'il subit au travail à l'instant T répète d'anciennes maltraitances dans l'enfance. C'est ça que je travaille. Mais bien sûr que finalement, mettre des pansements sur des burn-out et laisser l'ensemble du système social maltraiter les salariés de façon systémique, ça n'a aucun sens. Il y a un travail de fond à faire sur comment on traite les salariés, bien sûr.
Hélène, avant de se quitter, tu peux nous rappeler comment on peut te contacter si on a un gros burn-out?
Hélène Souhaut, Souhaut, vous tapez sur Google et vous me trouverez, quoi qu'il arrive. Je suis à Saint-Leu-la-Forêt et je suis facile à trouver. Mon téléphone est accessible en ligne sans difficulté.
Merci Hélène, à bientôt. C'était Didier sur EDFM. Alors vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site de la radio. À la semaine prochaine, même heure, même adresse pour un nouveau Rendez-vous compte.